Par exemple, prenons le système de la morale sociologique. Là, qu'est-ce qui fait cette harmonie dont je vous parle et qu'il y a dans l'expérience de l'obligation? Bien, à la limite, c'est l'intérêt de la société. C'est la société qui veut que la valeur soit ce qu'elle est. Qu'est-ce que j'entends dans ce qui me parle dans l'obligation? Qui parle? C'est la société. Ça, c'est la morale sociologique. Et les différents systèmes qui en découlent, notamment l'éventail des systèmes socialistes. On n'en parle pas dans les temples socialistes, mais on sait très bien que le Dieu qui donne la mitzvah, c'est la société. Oui. Oui, cette espèce de discipline du socialiste pour son parti, parce que qu'est-ce qui est en jeu? La société a dit que, la société idéale comme nous la voudrions a dit que, on obéit, il n'y a pas de problème. On obéit dans la même position que laquelle le fidèle d'une religion obéira, quand on lui dira, c'est le créateur, c'est la décision du créateur. Vous voyez? Bien sûr, il n'y a pas la émet, enfin la kdusha qu'il y a dans l'attitude de la Torah, mais l'expérience humaine qui est en jeu ici est très analogue. Alors on ne le dit pas, mais ça, parce que ça va de soi, c'est le postulat. Qu'est-ce qui fait qu'une mitzvah est une mitzvah au Parti Socialiste, quel qu'il soit d'ailleurs? Eh bien, c'est que la société qui est le bien suprême a pour intérêt ceci. Voilà son Shulchan Aruch. Vous suivez? Bon, prenons un tout autre système, le système de la morale rationaliste. C'est la raison qui veut que... Qu'est-ce que c'est la morale? C'est ce que la raison demande. Oui. Et puis vous énumérerez tous les systèmes, vous verrez que chaque fois, le moraliste va réduire l'obligation morale à autre chose qu'elle-même. On pourrait, d'ailleurs ce serait très intéressant de le voir en détail, en fait je vous fais confiance, ça vous pouvez le faire par vous-même. Vous prendrez la morale de Schopenhauer par exemple, et vous verrez que c'est le même processus. On va réduire la valeur morale à autre chose qu'elle-même, l'expérience de la générosité chez Schopenhauer, de la sympathie. Oui, bon, c'est ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qui motive le fait que je ferai le bien, que je ne ferai pas le mal? C'est parce que je vois chez l'autre le même destin que le mien et que je sympathise. C'est une vertu, mais ce n'est pas le fondement des vertus. C'est une parmi les autres vertus. Alors là, je suis déjà en train de vous faire la critique. Enfin, allons plus loin. Le postulat philosophique commun à toutes les moralités par rapport à la mitzvah, c'est que ce sont des hommes qui considèrent que l'être humain existe déjà, qu'il est. Voilà. Par conséquent, il n'a pas à être acquis. Ils sont aveugles à la manière dont la Torah nous fait voir le problème. Pourquoi? Parce que leur expérience est non hébraïque. Ils n'ont pas expérience d'eux-mêmes en tant que créés, mais en tant que étant. Alors si l'être est déjà, ben, il n'a pas à s'acquérir. Alors à quoi ça sert la vertu? Ben, la vertu, ça ne sert plus à acquérir son être, puisque je suis déjà. Alors on ne sait plus à quoi sert la vertu, et alors on cherche à lui donner un fondement, en la réduisant à autre chose qu'elle-même. Vous y êtes? C'est-à-dire, je pense donc je suis. Bon, maintenant je suis, à quoi j'ai passé mon temps? À la vertu, si je sais penser. Oui? Vous y êtes? Bon. Mais je passe mon temps à la vertu, non pas en vue d'être, mais en vue de passer mon temps à la vertu. Ce qui est une vertu, mais une parmi les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Et il n'y a rien de plus, si vous voulez. Et alors, littéralement, en fait, je vous fais un jeu de mots symbolique, malgré tout, puisqu'on va passer du français à l'hébreu d'après le midrash que vous avez dit tout à l'heure. Le philosophe vertueux est un homme qui s'ennuie. Il s'ennuie. Et s'ennuyer, étymologiquement, c'est se savoir être nu. C'est Adam Arishot. Qu'est-ce que ça veut dire s'ennuyer? Ça veut dire se savoir nu. Nu dans le sens hébreu. Ça veut dire sans mérite à acquérir. Vous avez compris ça? C'est-à-dire, vous voyez, le drame de la conscience du philosophe. Enfin, je connais ça par métier. Les grands philosophes sont des hommes de conscience tragique. Et ça se devine dans leurs textes, même les textes plus classiques. Ce sont des, si vous voulez, le drame incarné du philosophe, c'est Nietzsche. Lui, alors, était tellement énorme qu'il en est devenu fou. C'est-à-dire, c'est une tragédie. Je suis et je m'ennuie. Mais je m'ennuie dans le sens symbolique. Ça veut dire, je ne sais pas à quoi sert l'être. L'être que j'ai sur Terre, je ne sais pas à quoi il sert. Alors, bien entendu, c'est l'attitude stoïcienne qui est la plus noble dans ce problème. Ben, la grandeur de l'homme c'est d'être vertueux. Mais voyez, l'homme existe, il est, c'est lui l'être. C'est pas qu'il a un créateur qui lui a donné l'être. C'est lui l'être. Et alors à quoi passer le temps de l'être? Eh bien la vertu. Et la vertu c'est quoi? Alors suivant le tempérament, suivant que telle ou telle sphira a joué, suivant le tempérament, on dirait eh ben, l'être c'est chesed, la vertu c'est chesed. D'autres diront la vertu c'est gevura, d'autres diront etc. etc. Vous voyez à peu près le problème. Est-ce que c'est bien clair? Voilà, vous avez deux positions vraiment catégorisées. J'ai mis longtemps à me rendre compte de la simplicité du problème, mais c'est exactement comme la tradition a dit. Il y a d'un côté Israël, d'un autre côté tous les autres. C'est-à-dire, pour Israël, la vertu, c'est la mitzvah, c'est-à-dire l'obligation qu'il faut remplir pour réaliser ce que le Créateur a voulu, me donner l'être, et que je le possède. Voilà, c'est pas compliqué. Les autres, eh bien, les autres pensent qu'ils sont. Ce qu'il y a d'implicite, c'est qu'ils ne prennent pas au sérieux, même quand ils le disent, ce qui arrive, qu'ils ont été créés. C'est une façon de parler. Ils sont. Alors, à quoi occuper l'être? Eh bien, à la vertu. Mais la vertu, c'est quoi? Eh bien, la vertu, c'est ce que demande la société, c'est ce que demande la raison, c'est ce que demande le sentiment, c'est l'héroïsme, c'est tout ce que vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? Et alors, où est l'échec? C'est que s'il s'agit d'un être qui, d'autre part, est vertueux, alors ce que dit la société mène au bien, ce que demande la raison mène au bien, etc. Mais s'il s'agit d'un être qui préalablement n'est pas vertueux, ce que dit la société peut mener au mal, ce que demande la raison peut mener au mal, etc. Vous voyez la gravité du problème. C'est bien clair. Et vous voyez pourquoi surtout, au fond, c'est le derech eretz qui mène à être sadique, et une fois qu'on est sadique, alors il faut réaliser ce que la Torah demande avec son objectif qui est la kadusha, c'est-à-dire réussir ce que Dieu voulait pour la création. Enfin, je vous annonce déjà un autre cours, mais vous avez déjà compris. À qui la Torah a été donnée? À Israël. Et qui était Israël? Le résultat d'un derech eretz réussi. Israël est un être qui sait qu'il y a être tzaddique. Alors on lui donne la loi par quoi on est tzaddique. Et quand il le réussit, c'est kadosh. On a vu déjà cela assez rapidement dans d'autres cours. L'objectif de la Torah, c'est de dire kedoshim ki. Et à qui elle le dit? À des tzadikim. Mais comment ils étaient tzadikim? C'est à Merkulam tzadikim. C'est le Bnei Abraham, Israël et Jacob, c'est Israël. Israël est tzadik. Et c'est un tzadik qui accède à la révélation des mitzvot par quoi la destinée humaine peut réussir. Voilà, c'est bien clair? Alors vous voyez, vraiment, et vous comprenez mieux à la fin de l'année ce que je vous disais déjà subrepticement au début de l'année. Il y a vraiment, par rapport au problème de la Torah, Israël d'un côté, tous les autres de l'autre. Vous voyez que ce n'était pas une exagération. Et vous le vérifierez dans leur culture. Ça m'a beaucoup frappé. Tous ces grands hommes qui sont à la base d'un système moral, de morale philosophique, eh bien, vous ont caché un postulat de départ. C'est que d'autre part, ils avaient choisi pour la moralité. Ce n'est pas la stratégie qu'ils proposent qui les amenait à la moralité. C'est que d'autre part, et c'est leur mystère, ils ont accédé à la moralité, alors ils ont proposé à ceux qui ne peuvent pas accéder à cette expérience de la moralité une stratégie pour y arriver. Mais elle ne réussit qu'avec des gens moraux. Je vous donne un exemple. Prenez par exemple la morale de l'héros, du héros, la morale de l'héroïque, la morale bergsonienne. Eh bien, si ce sont des hommes ou des femmes qui d'autre part ont choisi pour la moralité, la conduite du héros mène à l'héroïsme moral du bien. Sinon, ça mène au totalitarisme, ça mène au fascisme, ça mène à tous les ismes que vous voudrez. Vous comprenez? Etc., etc. Est-ce que c'est bien clair? Et ceci pour tous les systèmes de morale. Prenez la morale kantienne. C'est ce que la raison pratique. C'est-à-dire, tvouna en hébreu. L'intelligence telle qu'elle est capable d'éclairer les situations concrètes où il faut réagir, la raison pratique qui dit ce qu'est le bien. Mais la raison pratique de qui dit ce qu'est le bien? De quelqu'un qui d'autre part est moral. Si c'est quelqu'un qui n'est pas d'autre part moral, la raison pratique va mener à n'importe quel pragmatisme utilitaire, je cherche un adjectif qui pourrait être appliqué aux Anglais. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Lorsque l'utilitarisme sordide fait violer n'importe quel engagement par rapport à Israël. Vous voyez de quoi il s'agit? C'est la raison pratique qui a joué. Ouh là, la réaction de la France l'année dernière. La raison pratique, la raison de temps, la raison pratique qui fait qu'on va violer le commandement de la moralité. Donc la raison pratique ne sert à mener à la moralité que si préalablement il s'agit d'un acte moral. Si vous voulez, pour reprendre les termes de la tradition juive, qui peut donner le Shulchan Aruch ? Rabbi Yosef Karo. À qui d'autre on peut demander le Shulchan Aruch ? Et pourtant, lorsqu'on étudie le Shulchan Aruch, on voit que c'est la raison pratique appliquée à la réalité de la vie. Mais ça dépend qui donne le din. Vous y êtes ? Vous, c'est bien clair ? Est-ce que c'est bien compris ? Et ainsi de suite pour toutes les autres motivations de la moralité. Voilà. Alors, nous allons terminer cette parenthèse et commencer à étudier un texte du Midrash qui va mettre en évidence ce problème. C'est-à-dire que l'homme a été créé comme être libre avec pour objectif d'utiliser sa liberté pour faire la preuve qu'il mérite d'exister. Ouais, vous voyez la formule. Okay. C'est le Midrash que je vais vous lire. Je vais d'abord vous dicter le Midrash. Vous reprendrez l'étude du Pshat dans le Midrash d'ailleurs, parce qu'il faut le voir vraiment. Il le mérite, ce Midrash. Vous le réétudierez. Et on mettra en évidence ce dont nous avons besoin pour le problème de la mitzvah. Vous verrez que beaucoup de conséquences pratiques doivent être mises en évidence. Verset. Ah, c'est un homme de Tzadik. Ça, c'est le verset qui formule le projet de la création de l'homme. Vayomer Elohim, Naaseh Adam, c'est-à-dire faisons. Alors, nous allons étudier un Midrash qui va poser une des questions qui se posent à propos de ce pluriel. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu dise au pluriel faisons? Alors, un des Midrashim, notez bien un des Midrashim, parce que le problème est très vaste. Un des Midrashim dit que Dieu s'est adressé aux anges. Bon, qu'est-ce que c'est que les anges? Vous savez déjà? Hein? Oui, bon, mais ça suffit pas comme définition, ce problème. Bon, enfin, dans le cours de l'étude du Midrash, cela apparaîtra. Admettons par postulat qu'il y a, au moment où Dieu formule le projet de la création de l'homme, apparaissent ce qu'on appelle les anges. On verra à définir mieux par la suite. Je crois que nous avons déjà parlé un peu de ça. Bon. Alors, je vous donne d'abord le pshat du Midrash. Amar Rabbi Simon. Rabbi Simon a dit. C'est un Midrash de Rabbi Simon qui enseigne ceci. Alors, je vous lis simultanément en hébreu et en français, mais vous notez le déroulement du raisonnement.
Quoi? Simon.
Samer Yud Mem Vav Nun. C'est-à-dire, c'est déjà un temps un peu postérieur, et où on était déjà tellement assimilé que Shimon, ça se disait Simon. Alors, Amar Rabbi Simon. Béchara, c'est Adam Arishon, c'est-à-dire au moment où Dieu a voulu créer le premier homme, alors comprenez bien les formules, c'est-à-dire au moment même où ce projet, le ratson, que Adam Arishon existe, est formulé, Naasu Malachai Sharet, Kitot, Kitot, Chaburot, Chabur. Malachai Sharet, littéralement, c'est-à-dire les anges du service, se sont divisés en groupes. Ils ont fait kitot, kitot, chabourot, des groupuscules. Et vous allez voir, ils vont contester. Alors, Nehem, Omrim, Alibra. Certains d'entre eux disaient qu'ils ne le créent pas. Oui, ils contestent. Et vous voyez donc quel est le déroulement du raisonnement. Dieu formule le projet de la création de l'homme, les anges. Ce groupe, c'est-à-dire se diversifie en genre, et puis certains d'entre eux disent à Libra, qu'ils ne le créent pas. Ou même Omrim Ibra. Certains d'entre eux disent qu'ils le créent. Vous voyez, une contestation au sujet de la création de l'homme. Quel est le problème? Un être tel que l'homme, c'est Dieu qui parle aux anges, si vous voulez dire, si j'ose dire quoi, dans le langage du Midrash, c'est Dieu qui parle aux anges et qui leur dit voilà mon projet, l'homme. Donc les anges sont censés savoir qui est cet être, qui est l'homme. C'est-à-dire, est-ce que je fais bien de le créer ou pas? Certains disent oui, certains disent non. Vous connaissez déjà ce Midrash? Donc on l'avait bien étudié. Ah bon, alors on va le reprendre. On va plus rapidement. Quand est-ce qu'on l'a étudié? Cette année, non? Hein? Comment? Ah, je l'ai cité. Bon, alors on va aller. Bon, alors ça fait rien, au contraire, ça vous permettra de mieux situer le point. Alors, c'est ce que dit le verset, cette contestation, c'est ce que dit le verset. La première référence, c'est Psaume 85. Je reprends sur le texte. Psaume 85, verset 11. Alors, faites bien attention, il s'agit d'un midrash. C'est-à-dire que la signification du verset qui va être utilisé n'est pas le pshat. Vous me suivez? Psaume 85, verset 11. Ah, je vous avais dit de préparer les règlements. Page 47 dont il lit. Donc, alors voilà ce que dit le verset. Chesed ve'emet nifgashu, regardez sur le texte. Chesed ve'emet nifgashu. Tzedek ve'shalom nashaku. Alors je vous lis d'abord le pshat du verset. La chesed, la charité, ve'emet, et la vérité, nifgashu, se sont
rencontrés.
Tzedek ve'shalom nashaku, la justice et la paix se sont embrassés. Bon, c'est pas exactement embrassés, se sont baisés, c'est pas la même chose, c'est pas qu'elles se sont pris dans les bras, elles se sont embrassées dans le sens vulgaire, enfin vulgaire, du langage vulgaire. Ça c'est le pshat. Bon, alors laissons très rapidement le pshat de côté. Comment ce verset est utilisé par le Midrash à propos du projet de la création de l'homme? Les anges sont en contestation et par conséquent, qu'est-ce que ça veut dire Nifgashu, qu'est-ce que ça veut dire Nashaku? Se sont combattus, se sont heurtés, se sont rencontrés en combat, se sont embrassés pour lutter. Oui. Alors, qui c'est les anges dont il s'agit ici? C'est les anges de Chesed, les anges de Hémé, les anges de Tzedek, les anges de Shalom. Vous voyez, quatre catégories d'anges, quatre parties. Deux disent qu'il le crée, comme nous allons le voir dans le Midrash, et deux disent qu'il ne le crée pas. Alors nous allons les catégoriser. Or, avant d'avancer dans le Midrash, qu'est-ce que c'est Chesed? Qu'est-ce que c'est Emet? Qu'est-ce que c'est Tzedek? Qu'est-ce que c'est Shalom? C'est précisément les coordonnées, enfin les critères, d'après lesquels une mitzvah, c'est une mitzvah ou pas. Vous voyez? Vous suivez? De quoi il est parlé? De la charité, de la vérité, de la justice, de la paix. C'est-à-dire, dès que le projet de l'existence de l'homme apparaît, apparaissent aussi les absolus par rapport auxquels l'homme sera jugé. Zom alacha charet. C'est-à-dire, c'est la formulation, l'expression de la volonté de Dieu concernant telle ou telle catégorie de valeur du monde de l'homme, pour le monde de l'homme. C'est compris? C'est bien clair? Oui. Ça veut dire, on pourra admettre comme postulat que, en même temps que le projet de la création de l'homme apparaît, c'est Malaché Hacharet, qui ont précisément pour fonction de juger l'identité de l'homme. C'est bien compris. Bon. Alors on voit l'argumentation du Midrash. Chesed Omer, Ivra. Alors mettez si vous voulez un plan. Chesed dit qu'il le crée. Chehu Gomer Chassadim. Parce qu'il est l'homme, il est Gomer Chassadim, c'est-à-dire capable de charité. Vous voyez, Chesed Omer Ivra, Chehu Gomer Chassadim. Emet Omer Alibra, Chekulo Shkarim. La vérité dit qu'il ne le crée pas parce qu'il est tout entier plein de mensonges. C'est-à-dire l'homme est un menteur. Regardez le caractère très dense de ce midrash. Premièrement, qu'est-ce qu'on entend? L'homme est un hassid. Deuxièmement, l'homme est un chakran. Alors, premièrement, l'homme est un être capable de ferveur. Deuxièmement, il est capable de mensonges. Et nous verrons finalement que ce qui fait qu'il en est ainsi, c'est la même chose. Parfois, pour être assis, il faut être capable de mentir. Vous voyez que, par exemple, si quelqu'un a fait quelque chose de grave et qui dépend de vous, et que ça dépend de vous, vous dites non, c'est rien fait, vous avez menti, vous avez été assis. Vous voyez à peu près comment les choses s'identifient. Bon, enfin, on va vivre. Vous comprenez ça? Et c'est des comme Eribra. La justice dit qu'il le crée, c'est la côte. parce qu'il est capable de faire des tzedakot, c'est-à-dire au fond des charités aussi. Et Shalom Omer Alibra, la paix dit qu'il ne le crée pas, Bekuler Tata, parce qu'il est tout entier querelle, violence. Bon. Maasakatvaoku, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a pris la vérité et il l'a jetée à terre. C'est ce qui est écrit dans le chapitre 8 de Daniel, verset 12. Vatashler Emet Arta. Et tu as jeté la vérité à terre. Alors on va s'arrêter là provisoirement et commencer à réfléchir sur ce village. Bon. Oui, le processus général du Midrash, c'est de nous faire comprendre que l'existence de l'homme est dans le principe impossible. C'est-à-dire l'homme est un être tel que par rapport à l'absolu, c'est un monstre. C'est un être impossible. Vous voyez, les différents critères se partagent le jugement sur cette question, est-ce que l'homme peut exister dans tous les sens du mot pouvoir, hein? Et finalement, le jugement est impossible à donner. Il y a autant de voix pour que de voix contre. Pourquoi? Parce que l'homme représente une créature contradictoire. Il est tel qu'il faudrait qu'il soit créé, mais il est tel qu'il ne faudrait pas qu'il soit créé. Vous voyez? Est-ce que vous comprenez? Bon, alors regardons-le. C'est bien clair? Voilà. Qu'est-ce qu'on entend dans ce que disent les Malachi HaSharet? C'est que l'existence de cet être-là, l'homme, est métaphysiquement impossible. Vous avez compris? Bon. Ça veut dire que dans tous les cas, j'anticipe un peu sur la fin du Midrash, mais dans tous les cas, si l'homme va être créé, c'est cadeau, c'est chesed, gamour. On va voir que Dieu va prendre de vitesse ce procès des absolus, il crée l'homme quand même. Ça veut dire en dépit de. Ça veut dire qu'il n'y a aucune justification, a priori, à l'existence de cet être que nous sommes. C'est-à-dire, si on voit les choses lucidement, honnêtement, nous savons très bien que nous ne méritons pas d'exister. Pourquoi? On pourrait plaider avec le même plaidoyer que les Malachi HaSharet et dire comment? Moi, l'homme, je ne mérite pas d'exister, mais regardez comme je peux être assis. Alors il y aura tout de suite la vérité qui dira « Oh, mais tu peux être aussi chakran. » Vous voyez ? Le tzedek dira « Oh, c'est sedakot », mais Shalom dira « Oh, mais c'est malektata. » Vous voyez à peu près le... Ça veut dire « On ne triche pas. » Vous voyez, c'est très important. Ça veut dire que l'homme, s'il se connaît en vérité, n'a pas le droit de dire... n'a pas le droit d'avoir l'attitude de la révolte qui consiste à dire « Je mérite, je ne mérite pas. » En fait, je ne mérite pas. Si je me connais vraiment en tant qu'homme, je sais que je n'ai pas le droit d'être. Et que si j'existe, c'est par la vertu de Hesed Elyon. Vous comprenez? C'est bien clair. Alors je vais aller tout de suite à l'essentiel. Et pourquoi il en est ainsi? C'est parce que l'homme est connu en tant que, dans ce Midrash, de l'origine, en tant que être. Je vais donner toutes les clés déjà. En tant qu'être libre. Et vous savez que les anges ne sont pas libres. L'ange de Chesed ne peut pas être libre d'être autre chose que Chesed. L'ange de Emet, etc. Vous comprenez ce? Cet homme, Adam, ça veut dire dans l'oreille des anges, ça veut dire, Dieu leur dit, je vais créer Adam, c'est-à-dire l'être libre. Alors les anges disent, crée-le. Parce que puisqu'il est libre, il pourrait être capable de Chesed. Mais l'autre dit, ne crée pas. Parce que puisqu'il est libre, il pourrait être capable de Sheker. C'est la même raison qui fait qu'il peut avoir ses vertus et ses défauts. C'est parce qu'il est libre. Voilà, si vous comprenez ça, vous comprenez tout le Midrash. Si vous voulez, la tare originelle de l'homme, c'est d'être libre. C'est une monstruosité métaphysique. Vous voyez? Alors, les plaidoyers pour, ça vient de ce que, il doit être libre. Alors moi, Chesed, je te donne la permission de le créer. Parce que pour pouvoir être capable de Chesed, il faut être libre. Vous y êtes? Puisqu'il est libre, il pourrait être capable de chesed. Qu'est-ce que c'est chesed? C'est être au-delà ou en deçà du din. Oui? Être au-deçà ou en delà du din, c'est ça l'être libre. Alors que c'est des satisfaits. Mais être en deçà ou en delà du din, ça c'est sheker. Si je suis libre, je peux mentir. Alors Emet n'est pas contente. Pas d'accord. Oui? Sadaka est d'accord, mais Shalom n'est pas d'accord. Vous y êtes? Bon, alors c'est très riche comme... comme contenu. Mais enfin, si vous voulez, l'intuition de base, c'est la suivante. C'est la même raison qui fait que les uns sont pour et les autres sont contre. C'est parce qu'il s'agit de l'être libre. De cette liberté préalable, qu'on appelle Pere Adam, hein, qui est finalement la liberté de l'arbitraire. Il fait ce qu'il veut. Il peut faire ce qu'il veut. Et vraiment, il peut faire ce qu'il veut. Il est tel qu'il peut faire ce qu'il veut. Hein. Bon, par conséquent, les absolus sont en contestation, mais, vous voyez, une contestation qui nous est présentée comme étant une sorte d'impasse. On ne peut pas donner le jugement des anges. Dieu, comme créateur, va avoir une option d'optimisme, si j'ose dire, qui consiste à créer l'homme quand même. Qu'est-ce qu'il fait? Et regardez le prix de cet optimisme, il prend la vérité et il la fait taire. Oui. Alors si la vérité se tait, comment? Pardon? Je veux dire. Si le shalom se tait, bon, eh bien, il en reste quand même que. Je veux dire pourquoi la vérité? Parce que quoi que disent tous les marchés à charret n'a de valeur que si c'est vrai. Donc il faut faire taire la vérité. Bon, je vous illustrerai ça. Chesed n'est chesed que si c'est chesed chez l'émet. Émet c'est émet que si c'est émet chez l'émet. Et vers où le verset. D'ailleurs, les marachés vont le dire. Mais ça veut dire en clair que il ne faut pas accepter d'entendre ce que la vérité a à dire de l'homme pour consentir à ce que l'homme existe. Est-ce que c'est bien clair? Ça veut dire si on fait jouer la vérité, l'homme est condamné. Alors l'homme ne peut exister. Il y a un pari d'optimisme. On va le créer quand même, on va bien voir. Hein. Mais pour que ce pari soit possible, il faut rester sourd à la vérité. Parce qu'en vérité, dans l'absolu, l'homme est vraiment plus mauvais que bon. Et on le sait très bien, puisqu'on est fabriqué comme ça. Est-ce que c'est bien clair? Voilà. Ça veut dire, je cherche le terme en français, il faut une certaine complaisance pour admettre que l'homme soit une créature viable. Il faut avoir de la complaisance. Vous voyez, quand les théologies disent c'est par un acte d'amour que Dieu a créé l'homme, on comprend bien pourquoi. C'est-à-dire, s'il n'y tenait pas vraiment, eh bien, en vérité, qu'est-ce que c'est que cet être-là? Regardez ce qu'il a fait du monde. Bon, etc. C'est ce que les anges disent. Vous comprenez? C'est-à-dire que, pour reprendre un registre philosophique, au niveau de l'absolu, l'homme est un monstre métaphysique. Et d'ailleurs, c'est le fait de prendre conscience de soi dans cette dimension-là qui mène à l'angoisse, à la découverte de l'absurde, à cette espèce de désespérance qui est le fondement même de l'expérience philosophique. Vous comprenez ce que je veux dire? D'ailleurs, lorsqu'on se découvre avec sincérité, alors on est paniqué, on est affolé. Qu'est-ce que c'est que ça, l'être que je suis? C'est un monstre. Vous avez compris? Bon. Alors, donc, qu'est-ce que Dieu fait? Il n'accepte pas d'entendre la voix de la vérité, il la jette par terre. Donc, on va voir plus dans le Midrash. Voilà la réaction des anges à ce moment-là, mais je voudrais quand même approfondir. C'est le fondement de la catégorie du jugement dernier. C'est-à-dire, Dieu n'acceptera d'entendre la vérité que lorsque la vérité pourra dire qu'il le crée. Vous comprenez? C'est-à-dire, le jugement ne pourra se faire que lorsque il sera possible d'entendre quelque chose d'autre qu'il y a dans le Midrash. Que la vérité aussi dit, ça y est, il a mérité, donc tu avais bien fait de le créer. Est-ce que vous comprenez cela? Vous comprenez pourquoi la catégorie du jugement, c'est la catégorie du jugement dernier. Qu'est-ce qui est attendu? Non pas le fait que la vérité puisse parler. Elle parle constamment, elle dit non, 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 non. Mais il arrivera un temps, elle pourra dire oui. Alors à ce moment-là, on l'entendra, on acceptera de l'entendre. Est-ce que vous avez compris? Vous voyez jusqu'où va cet optimisme. Et c'est d'ailleurs très essentiellement l'optimisme de la mentalité juive, comme vous avez vu souvent, c'est-à-dire d'un messianisme positif. Enfin, l'histoire humaine finira par engendrer le Fils de l'homme, et la vérité pourra dire oui. Enfin, est-ce que c'est bien clair? Nous n'attendons pas un Messie qui revient, mais nous attendons un Messie qui vient. Vous voyez la différence de résonance, enfin, le Messie qui revient, ça c'est, bon, c'est l'attente chrétienne, c'est la mentalité païenne. Hein. Il y a un cycle fermé sur lui-même, il naît, il meurt, il ressuscite, il naît, il meurt, il ressuscite, chaque année ils vivent ça. Hein. Oui. Et alors, le Messie qui revient, c'est un Messie de l'échec. Donc, eux attendent quelqu'un qui revient, dont la manière d'être est de revenir. Nous attendons quelqu'un qui vient, c'est-à-dire dans la manière d'être et de venir, et ça n'a rien à voir. Là, c'est la différence entre la mentalité païenne du temps et la mentalité biblique du temps. Est-ce que c'est bien clair? Comprenez bien cela. Bon. Quand les chrétiens vous disent, mais nous attendons qu'ils reviennent, ça y est, ils sont disqualifiés. C'est-à-dire, un Messie qui revient, c'est un Messie qui a échoué. Effectivement, c'est leur liturgie. Ben, dans la liturgie de l'année. Il naît, je ne sais plus où, à Noël, oui, à Hanouka, c'est ça. Et puis alors, il meurt. À quel moment il meurt? Enfin, bref, peu importe, c'était Halomot. Et puis, il naît, il meurt. Vous voyez, il revient. Donc, comprenez bien cela. L'énormité historique qui s'est passée, c'est qu'ils ont dit l'un c'est l'autre. Celui dont nous attendons la revenue, c'est celui dont les Juifs attendent la venue. Alors que l'un, c'est pas l'autre. Le Messie qui vient, le Messie qui revient, ça n'a rien à voir. Vous avez compris? Bon. Bien, alors, c'est surtout cela que je voulais ajouter, c'est que la vérité est jetée à terre, elle est, comme on dit en français, elle est sous le boisseau, on ne veut pas l'entendre. Mais jusqu'à quand? Jusqu'au jugement dernier. Et quand? Ça veut dire quand elle pourra dire oui. À ce moment-là, Dieu acceptera de l'entendre. Alors, c'est ce que nous avons à la fin du Midrash. Au moment où Dieu a jeté la vérité à terre, les anges se sont révoltés. Et ils ont dit à Dieu... Comment tu agis avec le critère des valeurs? Il y a ici un mot grec qui signifie le critère des valeurs. Attendez que je le retrouve. Amrou malach asharet ifne kadosh baruch hu, ribon haolamim. Les anges du service ont dit devant Dieu, maître des mondes, atame basé tarsis à tirsaïra. Ça veut dire très littéralement le critère de tes valeurs. Littéralement, ça veut dire plus exactement le héros de la cour qui annonce les grands personnages. Ça veut dire, dans la cour du roi, il y a un héros, chaque fois que les grands personnages viennent, ils donnent leur nom. Ça veut dire que c'est la vérité qui fait que Chesed, c'est Chesed, que Shalom, c'est Shalom, que Tzedaka, c'est Tzedaka. Vous voyez, c'est le héros de la cour. Ça veut dire, c'est le critère même des valeurs que tu as jetées à terre. Ça veut dire, eux-mêmes se sont révoltés parce que leur existence dépend de l'existence de la vérité. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, aucune valeur n'est plus une valeur si la vérité n'est pas la vérité. Et pourquoi ce serait important d'entendre que Torah, c'est Torah Temet? Alors, attendez, je finis de dire le Midrash. Alors, Dieu dit que la vérité regerme de la terre. Et c'est ce qui est dit dans le verset suivant du psaume, verset 12, « Emet me'eres tismach ». La vérité germera de la terre. Regardez comme c'est extraordinaire. C'est le verset suivant de l'autre. Ça veut dire, entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé ce qu'a dit Daniel, c'est-à-dire que la vérité avait été jetée à terre. Vous voyez comment on travaille le Midrash. Alors, vous voyez qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez cette idée de la germination? C'est-à-dire, bon, la vérité a été enfouie en terre, eh bien, qu'elle germe. Doucement, doucement, elle germera. Il y aura, vous retrouvez toutes ces prophéties du Messie, un rejeton qui germera de Judas, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une germination de la vérité jusqu'à ce qu'elle puisse remonter de la terre et dire l'homme a mérité d'exister. Bon. Alors jusque-là, nous avons lu le Midrash. À partir de ce Midrash, il y a différents thèmes qui doivent être approfondis. Il y en a un que je veux tout de suite mettre en évidence, faire des liens ce qui se passe. Du point de vue de l'existence absolue, c'est-à-dire sur l'écran de l'éternité, si j'ose dire, l'homme ne peut pas exister. Pourquoi? Il y a une preuve qu'il a à faire et qu'il ne peut pas faire de la manière dont il est constitué. Dans l'instantané, il ne peut pas. Alors qu'est-ce que fait Dieu? Il prend de vitesse la contestation éternelle des absolus et crée l'homme dans la dimension du temps. Alors, je vous lis la fin du Midrash maintenant, dans la durée. Et nous verrons que la durée, c'est le véhicule de l'acquisition du mérite par la mitzvah. Ce que nous verrons plus en détail. Alors Dieu leur dit, pendant que vous étiez en train de contester, déjà l'homme a été fait. Keba, naasa, c'est l'autre mot que je vous ai mis, naasa c'est faisons, naasa, il a été fait. Pour ceux qui connaissent la grammaire, vous verrez comment le Midrash a travaillé. Dans le naasa, il a lu naasa. C'est-à-dire Dieu dit aux anges, l'essentiel de ce qu'il a leur dire, c'est que vous avez beau contester, déjà naasa, il a été fait. Je l'ai fait. voyez les deux choses qui sont en présence. Si on ouvre un procès au moment du projet de la création de l'homme, est-ce que l'homme mérite d'exister? La réponse dans l'absolu, c'est non. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas trancher. Il y a deux contre deux. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Il fait taire la vérité et il se dépêche de créer l'homme avant que la vérité ne puisse dire non. Et il le crée comment? Dans Kebar Naasa, ça veut dire déjà il a été fait. C'est là que s'introduit la dimension de la durée. Vous voyez? C'est la durée qui nous permet de prendre de vitesse le conflit des absolus. C'est-à-dire dans l'absolu, dans l'éternité, dans l'instantané, le jugement de l'homme est impossible à faire. Mais le long de la durée, alors on a le temps d'acquérir, mitzvah par mitzvah, le mérite qu'il faut. Et voilà pourquoi la manière d'exister de l'homme, c'est la durée. Alors que la manière d'exister des anges, c'est l'éternité. Vous voyez, ça n'a rien à voir. C'est bien clair? Ça veut dire au niveau de l'éternité, eh bien l'homme n'a pas de place. Pas encore. Alors, il doit exister dans une dimension provisoire, qui est la durée. Pourquoi? Parce que cette formidable preuve qu'il y a à faire, payer le prix de mon être, il faut que j'ai le temps de la faire. Et c'est le long du temps que, mitzvah après mitzvah, je peux distribuer la tâche que j'ai à remplir. Mais d'un coup, c'est pas possible. Vous comprenez? Si nous voyons ce thème du pidyon, du rachat de la personne, d'un coup, alors c'est le thème du sacrifice. C'est Isaac. Hein? Tu veux ton être, paye-le. Comment il faut le payer? Toi. Alors c'est comment je vais acquérir mon être en le perdant. Alors c'est tout mon être que je paye, mais distribué le long du temps, mitzvah par mitzvah. Vous voyez? Vous comprenez bien cette différence. C'est clair. Alors vous voyez, ce qu'enseigne ce midrash, c'est que, au fond, c'est toujours le même problème que j'ai à résoudre avec les mitzvot, c'est le problème qui consiste à faire la preuve que je mérite d'exister. Mais d'un coup, c'est pas possible. Alors c'est distribuer le long du comportement de la vie. 70 ans sont donnés pour avoir à faire la preuve de cela. C'est-à-dire que la vérité puisse dire Ibra, il le crée. C'est-à-dire c'est tout le temps de cette germination qui fait que, bien que libre, cet être mérite d'exister. Alors comment il va faire la preuve? Eh bien précisément, il va faire la preuve du fondement, du mérite de sa propre liberté. Toutes les mitzvot qui se posent à nous comme obligation, c'est parce que nous sommes libres. Pourquoi la Torah ne me dit ne tue pas? C'est parce que je suis libre. Alors j'ai à faire à preuve que ma liberté par rapport à autrui, dans les trois secteurs que nous avons vus, elle est cachère. Elle n'est pas celle d'un rachat, elle est celle d'un sadique. J'ai 70 ans pour faire cette preuve-là. Alors je vais un peu plus loin. Normalement, c'est en 70 ans que chacun yemé shenotenu bahem, shivim shana. Veim dirburo, ça veut dire s'il faut aussi aider les autres, gouvoa, shmonim shana.
Après ce temps-là,
on a le droit de faire. Après ce temps-là, il n'y a jamais lu Ben Adama le Kippour après-midi, Yamincha. Vous n'avez jamais lu Ben Adama, vous n'avez pas un mahzour de Kippour? Ah ben je vous lirai. Alors vous voyez, qu'est-ce qui se passe après 70 ou 80 ans? Clou, Nershav Kemet, ça fait. Il ne fait plus partie de la société humaine. Enfin, dans le cas normal, quoi. Ah, vous pensez à. Bon. Il y a pas de... On revient au problème. Qu'est-ce que je disais d'ailleurs? Oui. Et alors, si. En principe, ça veut dire, si on comprend bien, normalement, bien tout ce temps de vie, et sachez bien qu'à votre âge, on peut peut-être pas encore le voir très. Autant qu'il le faudrait, mais le temps, c'est très long. C'est très, très, très long. Vous pouvez pas vous imaginer à quel point c'est long, le 70 ans de vie. C'est très long. Quand on est jeune, ça va vite. Ou enfin, ça a l'air de passer vite. D'accord? Mais c'est très, très long. Ça veut dire qu'on a vraiment le temps de faire cette preuve. Seulement, on s'en rend compte quand c'est trop tard. Bon, alors finalement, si on n'a pas réussi pendant une vie, eh ben on revient jusqu'à ce qu'on ait fini. Vous voyez quel est le sens de cette détermination. D'ailleurs, je dois vous dire, les rabbins ont enseigné que tout ce qu'il y a d'acquis est acquis. Tout ce qu'il y a d'acquis est acquis, et on revient pour fignoler ce qui manque encore à arranger. Alors voilà le problème, enfin ce problème-là que je voulais vous montrer, dans toute sa simplicité. C'est-à-dire la manière d'être de l'homme, c'est d'emblée d'être candidat à la mitzvah. Que s'il doit y avoir une Torah, ce qu'on exige de cette Torah, c'est le mode d'emploi. Comment faut-il faire pour faire la preuve de cette liberté? Je veux dire, pour faire la preuve que cette liberté est celle d'un homme, d'un être qui mérite d'exister. Vous voyez cette crainte des Malachi HaSharet, hein? C'est plus qu'une crainte, c'est une espèce de drame. Les uns disent, mais il faut qu'il le crée, parce qu'il est tel, libre, qui pourra réaliser notre idéal, chesed, sadaka. Hein? Et les autres, la crainte. Si jamais un être de ce genre existe, le monde est fichu. Pourquoi? Parce que par définition, il est plein de shkarim et de ktata. Enfin, de mensonges et de guerres. Alors, si vous lisez les journaux, vous verrez que depuis le commencement de l'histoire du monde, c'est ce midrash qui est mis en page dans tous les journaux. C'est-à-dire, on vous raconte comment l'homme se conduit avec chesed, avec emet, avec shalom et avec tzedaka. Vous y êtes? C'est ce midrash de Rabbi Simon, c'est le fondateur de la presse mondiale, qui est raconté dans tous les journaux, et vous remarquez à quel point, pour pouvoir mettre des bons points à l'homme, qui est le héros du roman journalistique, pour pouvoir lui mettre des bons points, il faut mentir. Il faut faire taire la vérité. Vous n'avez qu'à lire l'éditorial du Monde, vous verrez chaque jour c'est comme ça. Bon, vous avez compris, je voudrais vous ajouter très rapidement un autre principe. C'est que si on confronte la position juive de ce problème, telle qu'on l'a vu dans le Midrash, et la position grecque, alors vous retrouvez de nouveau ce que je disais tout à l'heure. Enfin, la position grecque qui sera prise par postulat comme étant, si vous voulez, l'intuition philosophique au niveau de l'humanité tout entière. Enfin, toute philosophie, quelle qu'elle soit, commence premièrement par devenir de type grec. Et nous retrouvons ce qu'on disait tout à l'heure, il y a Israël d'un côté, tous les autres de l'autre. Dans l'expérience grecque, c'est la même. Dans l'expérience grecque, c'est l'homme qui juge les absolus et qui les trouve contradictoires. Dans le Midrash, c'est les absolus qui jugent l'homme et qui le trouvent contradictoire. Vous voyez la différence? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, le Midrash, enfin, partant si vous voulez, l'expérience philosophique que je vais vous décrire très rapidement, voilà quel est le drame de la pensée philosophique. On découvre dans les obligations de la conscience, chesed, emet, tzedaka et shalom. Mais on les découvre comme contradictoires. Alors l'absolu est absurde. Vous voyez? D'où, premièrement, réaction de panique, et deuxièmement, réaction tragique. Tragique, ça veut dire notre drame est insoluble, les absolus qui nous gouvernent font la guerre des dieux. Vous voyez cette mentalité-là? Chacun de ces absolus est un vrai absolu, seulement entre eux, ils se font la guerre. Ils se contrarient entre eux, ils sont incompatibles. Alors, tragédie, et résultat, eh bien, on ne peut pas réussir la vérité morale, on ne peut que la contempler. Et cette conscience tragique devient conscience contemplative. Vous suivez? Et on évacue la morale. Pourquoi? Parce que l'expérience de base, c'est qu'on ne peut pas, les absolus sont contradictoires. Tandis que, dans le Midrash, c'est l'inverse. C'est les absolus qui jugent l'homme et qui le trouvent contradictoire. Vous avez vu? Bon, alors il suffit de s'identifier comme homme pour savoir que c'est le Midrash qui a raison, et pas la philosophie. Si nous acceptons de nous connaître honnêtement et sincèrement, alors on sait très bien que notre problème c'est celui du Midrash, et pas celui de la mythologie, enfin de l'Olympe, où les dieux se font la guerre. Ça c'est la mentalité goy. Les dieux ne sont pas d'accord entre eux, enfin les malachas s'arrêtent. Parce que c'est entre eux qu'ils sont incompatibles. Tandis que là, on comprend très bien ce qui se passe. Le jugement est porté sur l'homme. Alors je relis avec le principe de tout à l'heure, c'était inévitable. Un être qui pense qu'il existe déjà, met en jugement les absolus. Tandis qu'un être qui sait qu'il est en train d'être engendré, alors il accepte le jugement des absolus. Vous voyez la différence? Alors d'un côté, vous avez la position religieuse, et de l'autre côté, la position philosophique. La position religieuse, c'est que ce qu'il y a à réussir, c'est l'identité humaine. Elle est en cours d'engendrement. Ça veut dire que les structures sont immanentes à la personne humaine. Ça, c'est la position religieuse. Pour la position philosophique, c'est l'inverse. C'est la personne humaine qui est immanente aux structures. Vous voyez à peu près la différence. Bon, alors, pour attacher ça à notre problème, enfin, c'est un des biais par lequel on doit aborder le problème de la mitzvah, il y en a bien d'autres, pour attacher ça à notre problème. Alors nous voyons que, premièrement, la nature de l'obligation, c'est de mettre en question l'être lui-même, et pas seulement un avoir de vertu, c'est bien clair. Deuxièmement, c'est que ceci est constitué par notre manière d'être de la vie terrestre, qui est d'être dans la durée. Pourquoi la durée? Pourquoi nous existons comme ça? C'est pour avoir le temps de résoudre un problème qui, dans l'absolu, est insoluble. Voilà tout ce que le Midrash nous a mis en jeu de ce point de vue-là. C'est-à-dire le temps de réussir le mitzvot. Alors, à chaque mitzvah, c'est un point de l'être qui est betikoun. C'est le tikoun d'un point de l'être qui est cherché. Et il faut toute la vie pour ça. La vie, c'est que ça. Et la vie, c'est tout ça. Vous y êtes? Alors, voyez pourquoi celui qui est hors la loi des mitzvot est ennuyé.